est-ce que la prééminence de Rome apparaît dans cette construction? Est-ce que c'est à l'occasion de ces conciles?
Non. L'évêque de Rome n'est pas présent au concile de Nicée. Donc, il n'est présent à aucun des conciles généraux. Il a été délégué, c'est vrai, mais il n'est pas présent. Par contre, il y a quelquefois des synodes à Rome. Donc, cet axe vertical, il va se construire par réaction à l'axe, je dirais, constantinopolitain. Comme vous le savez, donc, le centre de l'Empire se déplace de Rome à Constantinople avec Constantin. Et progressivement, donc, les églises d'Orient vont, dans ce processus d'unification, vont s'organiser autour de l'axe impérial, celui de Constantinople. Ça commence par le ralliement à Constantin, et c'est surtout donc important en 381 sous Théodose, qui a imposé donc le christianisme nicéen, le symbole de Nicée, comme la religion officielle de son empire, donc l'Empire d'Orient. Et c'est à ce moment-là donc que le christianisme latin a cherché un axe de ralliement. Et pas encore en Occident, ou pas de façon continue. Donc ça a profité donc à l'évêque de Rome. Alors, bien voir que le titre de pape est très tardif, il date du Moyen Âge. Le titre de pape est porté par différents évêques, une fois celui de Rome, plusieurs fois celui de Constantinople, de celui d'Alexandrie, plusieurs fois celui de Carthage. En fait, le titre de pape renvoie à la puissance patriarcale de l'évêque, et en fait, on parle plusieurs évêques. Deuxièmement, la prééminence, la primauté de Rome, appuyée sur le fait de la prééminence de Pierre. Alors ça, c'est un mouvement qui apparaît plus tôt, qui apparaît donc dès la fin du IIe siècle, puisqu'il y a déjà un mémorial apostolique sur la colline, dans la nécropole du Vatican, c'est 1980. Et donc va se développer progressivement, mais avec toujours des contestataires. Et pendant longtemps, c'est plutôt une préséance qu'une prééminence. Pierre était le chef des douze, donc le siège de Pierre a des droits historiques supérieurs aux autres. Mais c'est contesté par l'évêque de Carthage, par l'évêque d'Alexandrie. C'est pas du tout naturellement admis. Et le troisième élément donc, qui va imposer progressivement la prééminence romaine, c'est que le droit canon s'invente en quelque sorte à Rome, à partir du IVe siècle. Et là, vous avez donc deux expressions normatives, les synodes, conciles en Orient, et le droit canon, les décrétables en Occident. Donc, il y a des noms, disons, à partir du 4e, 5e siècle, Léon le Grand, Gélas, Grégoire le Grand, c'est là que se met en place la primauté romaine. La prééminence, puis la primauté romaine.
Et alors, avant ça, comment est-ce que émergent les évêques? Qui est-ce qui les nomme? Comment est-ce qu'ils deviennent évêques?
Ils sont élus.
Et c'est ce qui
explique qu'il y a tellement de schismes, parce que les élections épiscopales sont extrêmement mouvementées, et aussi le fonctionnement en petits groupes. Donc les dissidences, qui ne sont pas doctrinales, et qui sont d'ordre ecclésiologique, ont lieu quand une élection épiscopale est contestée, et donc d'autres groupes élisent un autre évêque. Même l'idée de l'unité d'une communauté chrétienne par ville, par Athènes, Corinthe, Alexandrie, est elle-même très fragile. C'est le petit groupe qui domine, qui s'impose. Et après, donc, vous avez des schismes comme ça lors d'une élection pontificale contestée, comme celle épiscopale contestée, comme celle donc de l'évêque de Carthage en 306, qui va s'étendre, en utilisant différents facteurs historiques, et ça donne la grande dissidence de l'Atiste qui va durer à l'Afrique du Nord donc, pendant tout un siècle. Donc l'évêque est élu partout. Donc il n'est pas en soi facteur d'unité, il est plutôt au départ, comme on le voit très bien à l'épître pastoral, le représentant d'un lieu, le représentant d'un lieu. D'où l'importance, ils ont eu la grandeur, je trouve, les évêques de l'Antiquité, de comprendre que l'unité ne pouvait se créer que par eux. Donc ils se sont mis en réseau. Alors, c'est comme ça qu'ils ont une sorte d'armature, une présence chrétienne éclatée, diasporique. Oui.
Ils étaient élus selon les mêmes règles
qu'il faut suivre. Il n'y a pas aucune règle.
Non, c'était des règles construites ad hoc.
Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de célibat. Il y a des conseils très généraux dans un texte du Nouveau Testament qui est la première épître à Timothée, qui dit il y a deux critères pour choisir l'évêque. Il faut qu'il soit un bon chef de famille, puisque bien sûr il était marié. Donc il faut qu'il soit un bon chef de famille, et si on gère bien sa maison, on peut penser qu'on gérera bien la communauté chrétienne. Par contre, quelqu'un qui gère mal sa maison, mais il y a peu de chance qu'il gère bien la communauté. Ça, c'est le premier critère. Et puis, second critère qui est intéressant, qui montre que dès le début, ces petits groupes chrétiens s'intègrent au monde séculier. Et il faut que ce soit qu'ils soient reconnus par la cité, qu'ils soient reconnus dans l'environnement social. Ce qui fait que, ça vous étonnez ou sinon vous choquez, que l'épiscopat est presque toujours héréditaire durant ces trois siècles. On était évêque de père en fils. Il y a un évêque d'Éphèse qui est très content de dire qu'il est le 9e évêque de sa famille. Et donc, mais ça ne doit pas nous choquer parce qu'à cette époque-là, donc, les magistratures municipales se recrutent aussi de façon héréditaire. Donc, l'épiscopat fonctionne de la même façon.
Et donc, la question du célibat se pose à quelle
Pardon, du
La question du célibat se pose à quelle période
Le célibat, la question du célibat se pose à quelle période C'est normé au 11e, non
Oui, c'est 11e, 12e.
11e, 12e, oui. Vous parlez de l'invention du martyr à un moment. Pourquoi vous parlez de l'invention? La notion de martyr est. C'est un thème en débat, c'est contesté.
Ça recoupe largement la question des rapports entre judaïsme et christianisme. Et puisque si les deutérocanoniques réintégrés donc, dans la Bible des chrétiens sont très largement des récits de persécution qui évoquent donc, pour certains d'entre eux, qui évoquent des martyrs. Il y a deux types de récits de persécution, genre le livre d'Esther où il y a pacification finalement, et le livre des Maccabées donc, où il y a des martyrs avec des histoires célèbres. Comme les sept fils et leur mère, tous massacrés, donc exécutés les uns après les autres. Donc il y avait un modèle juif qui a ensuite été repensé avec l'exemple du Christ, la mort volontaire du Christ sur la croix. Et en même temps, donc, il y a eu toujours discussion sur la valeur du martyr. Tous les textes chrétiens de cette époque montrent donc trois options. En cas de persécution, donc, on peut fuir, on peut résister activement et on peut rester sur place en se protégeant maximalement. On peut fuir, et ce qui est assez étonnant, mais qui s'appuie très tôt sur un énoncé de l'évangile de Matthieu, où Jésus dit à ses disciples, il y aura la persécution et vous fuirez dans les montagnes. Donc c'était la base théologique, donc, que le martyr n'est pas une obligation en quelque sorte. Que le chrétien devant la persécution se trouve, que le chrétien dans la persécution se trouve devant un choix. Donc ça aussi c'est une révision qui est très importante en ce moment, parce qu'il y a toute une littérature qui reprend. Je ne sais pas si ça vous a frappé dans les articles du Monde, par exemple, qu'il y a beaucoup d'éloges du polythéisme en ce moment. Parce qu'on assimile le pluralisme religieux que nous vivons au polythéisme du monde antique. Ce qui est tout à fait aberrant pour un historien. Et que d'autre part, on fait en plus un contresens sur le polythéisme, en pensant qu'il était naturellement tolérant, puisqu'il suffisait donc d'ajouter, on peut toujours ajouter à l'infini, donc un culte ou un dieu de plus. Mais si ça a été possible, il n'y aurait pas eu de pensée de Socrate. Il y a eu des persécutions donc menées par les polythéistes contre les polythéistes. Donc, on ne peut pas dire non plus que les chrétiens, que les monothéismes juifs et chrétiens sont naturellement, intrinsèquement, par leur nature même, monothéistes, ils sont naturellement persécuteurs et courent au martyr. En fonction de l'équation, monothéisme, religion exclusive, refus d'altérité. Puisque, encore une fois, le martyr est une option parmi les autres pour les chrétiens persécutés dans l'Antiquité, mais ce n'est pas la seule. C'est jamais le martyr qui apparaît à cette date, donc, comme le témoignage chrétien par excellence. On est très loin, donc, par exemple, de la façon du martyr qui a eu lieu à l'époque moderne, en particulier sous Jean-Paul II.
Merci.
Merci infiniment.
Merci à vous.
Et bravo.